Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives. Musique juive d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans ce studio M. Franklin Roski. On ne vous présente plus M. Roski, mais je vais quand même le faire parce que votre parcours est impressionnant. Vous êtes maître de conférences en psychologie à l'Université de Strasbourg et directeur des études de l'Institut Elie Wiesel à Paris. D'autre part, vous avez publié il y a peu deux ouvrages absolument essentiels. D'abord, un dictionnaire de psychologie et psychopathologie des religions aux éditions Bayard, dans lequel je crois vous avez écrit un article avec Gilbert Rouget, article consacré à donc la musique et la transe dans la Bible. Et ce sujet va être au cœur de notre émission de ce soir, puisque cette émission est consacrée aux musiques et à la mystique juive. Et d'autre part, vous avez publié un autre ouvrage, donc vous êtes extrêmement prolifique, qui s'appelle Ivresse biblique. Alors est-ce que c'est le vin comme ça qui fait couler les idées et les flux et les flots de votre littérature? En tout cas, cette Ivresse biblique, que je vous encourage aussi vivement à lire, a été éditée aux éditions Presse universitaire de France. Donc Franklin Roski, bonsoir.
Bonsoir.
Et donc, dans le cadre de vos activités à l'Institut Elie Wiesel, vous organisez un séminaire absolument passionnant autour du thème « Mystique juive, mystique chrétienne, regard croisé ». Et comme je suis un peu curieux de nature, je suis allé voir sur le site donc de l'Institut Elie Wiesel et j'ai pu lire que ce séminaire concernait donc différentes disciplines, théologie, philosophie, exégèse biblique, anthropologie, psychanalyse, bien sûr, sociologie, histoire, mais j'étais un peu frustré parce que j'ai pas trouvé la musique. Alors, je ne suis pas rancunier, mais je me suis dit, il faut que la musique soit également présente dans ce séminaire, et donc quoi de mieux que d'inviter Franklin Roski dans ce studio ce soir. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'intervenir lors d'un colloque organisé par la ville de Saint-Amand-Montrond, c'est une petite ville située à 30 km de Bourges, autour du thème « Le chant mystique dans les trois religions révélées ». Et donc, j'avais envie de partager avec vous, et grâce à M. Roski, ce sujet passionnant, cette rencontre fructueuse entre mystique et musique juive, sujet dont on parle d'ailleurs assez peu. Donc, M. Roski, j'ai pris mon téléphone, je vous ai appelé, et en moins de temps qu'il n'a fallu, vous m'avez dit oui tout de suite, et je vous en remercie infiniment. Alors, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et d'écouter une prière particulière, mais que tout le monde connaît ou presque, le fameux Kaddish, cette prière qui, comme les psaumes, a inspiré la liturgie chrétienne et notamment son Pater Noster. Nous venons d'entendre un extrait du Kaddish de Salomone Rossi, joué ici par l'ensemble Texto avec à la direction David Klein, donc extrait du CD Musique juive baroque Venise, Mantoue, Amsterdam, 1623-1774, le volume 10 précisément de la collection Patrimoine musicaux des Juifs de France de l'Institut européen des musiques juives. Et ce très beau Kaddish a été écrit donc en 1623 par Salomone Rossi, musicien qui était employé à l'époque à la cour des ducs de Mantoue et qui, chassé par les premières persécutions anti-juives, s'est réfugié dans le ghetto de Venise et sous l'impulsion notamment du rabbin Léon de Modène, a inspiré la liturgie, renouvelé une partie de la liturgie donc synagogale à Venise avec l'introduction de cette très belle musique savante. Ce kaddish qu'on entend encore parfois, qui est écrit souvent pour double cœur. Alors, Franklin Roski, je vais vous demander quelque chose qui va vous sembler peut-être impossible, mais puisqu'on est dans le monde du mysticisme, où rien, en fin de compte, n'est impossible, pourriez-vous, pour nos auditeurs, définir un petit peu ce qu'on appelle la mystique juive? Est-ce que c'est la même chose que la Kabbale?
Non. Tous les kabbalistes ne sont pas des mystiques. Et tous les mystiques juifs ne sont pas des kabbalistes. La mystique juive peut se définir par opposition à la théologie juive. Les théologiens juifs, c'est le cas d'un Maïmonide, d'un Nachmanide ou d'autres auteurs de l'époque médiévale, veulent prouver le divin. Le mystique juif, c'est le cas de Rabbi Israël Baal Shem Tov ou de Rabbi Yitzhak Luria, ne veut pas prouver le divin, mais éprouver le divin. Il s'agit d'une recherche de l'expérience unitive avec l'absolu, avec le transcendant, avec l'infini. Or, cette recherche, parfois, est purement individuelle. Dans d'autres cas, cette recherche s'inscrit dans une école, dans une tradition. C'est le cas des kabbalistes. Mais tous les kabbalistes ne sont pas des mystiques. Moshe Hidel avait d'ailleurs établi cette division fondamentale entre les kabbalistes théosophiques, dont l'objectif c'est d'expliquer et d'explorer la nature du divin, qui sont donc dans une logique intellectualiste, et d'autre part les kabbalistes qu'on peut appeler extatiques, dont l'objectif c'est d'arriver par la musique, par le chant, par la lecture, par la méditation, par la contemplation, à une compréhension de la nature du divin. Voici donc les éléments qui peuvent définir ce qu'on appelle la mystique juive, qui est une mystique qui a des points communs avec toutes les autres mystiques du monde, mais qui s'y différencie parce que la mystique juive est essentiellement aniconique. Elle refuse l'image, elle refuse la figuration, elle refuse la représentation du divin. Ce qui reste quand la figure, la forme, la couleur ont disparu, c'est le son. C'est le son à travers la musique, à travers le chant, à travers la parole. Et c'est précisément la raison pour laquelle la mystique juive est plus une mystique de l'écoute qu'une mystique de la vision.
Oui, alors justement, on en viendra plus tard. On sait que dans la création même divine, le son a été très important. Et j'ai envie de vous demander, mais depuis quand, en fait, parle-t-on de mysticisme juif? Est-ce que c'est un phénomène ancien ou pas, qui remonte déjà à l'époque biblique, ou c'est récent? Enfin,
la mystique qu'on peut appeler juive ou hébraïque remonte, selon Henri Serruya, qui est un des grands historiens du mysticisme juif, remonte à l'époque biblique. Mais ce sont des expériences qui s'inscrivent dans des itinéraires biographiques personnels. Le meilleur exemple de cette expérience est l'expérience d'Abraham. C'est une expérience d'arrachement, d'exil, de séparation, des fractures par rapport au monde dans lequel Abraham a vécu, et des départs vers l'inconnu. Cette recherche à travers l'inconnu de la transcendance du Dieu unique est l'acte fondateur du monothéisme hébraïque dans le texte biblique.
Alors, puisque vous parlez d'Abraham, justement, moi, ça m'évoque immédiatement le sacrifice d'Abraham, cet acte, ce sacrifice que Dieu réclame donc à Abraham, de sacrifier son fils Isaac, son fils chéri, son fils unique, et pour l'éprouver, bien évidemment, et au dernier moment, la main de l'ange va retenir la main d'Abraham, et il est donc, il y aura cette fameuse alliance qui va être conclue entre les descendants d'Abraham, et Dieu, et à ce moment-là, donc, Dieu dit à Abraham de sacrifier un bouc ou un bélier, et c'est ce bouc et ce bélier dont on utilise la corne pour sonner aujourd'hui cet instrument qui s'appelle le shofar, qui est aujourd'hui le seul instrument d'ailleurs qui nous reste des instruments bibliques, et c'est un instrument très important, on va en parler après, mais je vous propose, puisque nous avons les fêtes juives, les grandes fêtes juives juste derrière nous, donc Kippour n'est pas très loin, d'écouter dès à présent la prière de Kippour El Meler Yoshev, qui se clôture par ce son du shofar. La prière de Yom Kippour, El Meler Yoshev Al Kisser Chachamim, avec à la fin donc, cette sonnerie de shofar dans le rite séfarad de Jérusalem. On est vraiment en situation, d'ailleurs, c'est incroyable, parce que normalement on ne peut pas enregistrer lors des grandes fêtes et de Kippour, mais on dirait vraiment que ça a été enregistré en situation, ce qui nous permet de ressentir un peu ce que c'est cette prière collective juive où tout le monde s'exprime. Et on a entendu ce son du shofar brièvement, et comme vous le savez, sans doute, Franklin Roski, le son du shofar est souvent associé au jugement dernier. On dit qu'il scelle le destin de l'homme à la fin de l'office de Yom Kippour, puisque pour nos auditeurs qui ne le savent pas, on dit que entre les 10 jours terribles, entre Rosh Hashanah qui marque le début de l'année et Yom Kippour qu'on appelle la fête du grand pardon, c'est à ce moment-là que Dieu décide du destin de chaque homme, s'il est inscrit ou non dans le livre de la vie pour l'année qui vient. Et donc, c'est de fait commence par le son du chauffard et se termine par le son du chauffard. Donc, le chauffard est un instrument hautement symbolique, vous l'avez dit, associé à Abraham, au sacrifice d'Isaac. Et selon le Zohar, en fait, le peuple d'Israël parvient à force de prières et grâce à la sonnerie du chauffard à transformer la condamnation divine en pardon miséricordieux. Et on dit même que tout le monde ne peut pas sonner du chauffard. Son jeu est réservé aux hommes sages, empli de kavana, c'est-à-dire d'une intention pure en quelque sorte. Et on dit même que Satan peut parfois obstruer le chauffard pour empêcher son jeu. Donc le chauffard, instrument biblique, on voit que il fait partie des instruments mentionnés dans la Bible. Et la mystique juive donc se présente très tôt, vous l'avez dit, dans les écrits bibliques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sous quelle forme, dans quel texte? Enfin, vous nous avez parlé du sacrifice d'Abraham. À quel moment on peut trouver trace de cette mystique juive dans les textes fondateurs?
Pour moi, le grand moment fondateur de l'expérience mystique et le récit du buisson ardent au mont Sinaï, quand Moïse, qui ignore tout de l'histoire de son peuple, qui a quitté son pays natal après avoir tué le contremaître égyptien pour sauver un esclave hébreu menacé des morts, se retrouve donc face à ce buisson dont le feu ne s'achève jamais. Et cette idée de cette vision du feu permanent, du feu éternel du buisson ardent apparaît comme un phénomène visionnaire. Pourtant, par la suite, c'est le son de la parole révélée qui va donner sens à l'image. Car au fond, le buisson ardent est en soi-même un phénomène ambivalent. Il peut représenter donc une pléiade de phénomènes possibles d'ordre monothéiste ou païen. Mais la parole vient donner à cette image un sens tout à fait différent. C'est le sens de l'appel à la libération des esclaves hébreux en Égypte par Moïse. C'est donc cette vision qui n'est que le préambule, la préface de la parole qui viendra. Donc l'image ne fait que précéder le son qui est porteur du sens.
Oui, non, c'est très intéressant, d'autant plus que, comme on le disait, le son procède de la création. Il me semble avoir lu que la création de Dieu chez les mystiques, elle s'est faite par la parole. On parle de la voix de Dieu qui planait, il me semble, et donc le son est inscrit dans la création, plus presque. Enfin, Dieu est représenté par le son quelque part, n'est-ce pas?
Oui, le son est un acte créateur. Et le monde, dans la vision mystique, a été créé par les dix paroles qui sont les Asara Ma'amarot. Les dix phrases créatrices de l'univers qui, en sept jours, vont créer l'essentiel de l'univers, les fondements de l'univers, n'est-ce pas, la terre et le ciel, la lumière et l'obscurité, l'océan et la terre ferme, les différents règnes minéral, végétal, animal, humain, et finalement le temps à travers le Shabbat, de façon telle que le son a plus qu'une réalité. Le son a plus qu'une matérialité. Le son est précisément porteur de transformation, de métamorphose. Le son modifie essentiellement l'ordre de l'univers dans lequel nous vivons.
Alors, puisque vous nous parlez de son, on va entendre un peu de son justement, et on va rester dans des prières tout à fait bibliques, puisqu'il s'agit de psaumes. Nous allons écouter le psaume 121, on en commentera après, Shir Amalot, Esaina El Erim Me'ain Yavo Ezri, qui veut dire « Je lève mes yeux vers les hauteurs », interprété par André Taïeb dans le rite constantinois.
Shir Amalot, سعينا إلى Shamayim
Waaretz. Un extrait de ce psaume 121, Shirla Malot et Saina El Harim, interprété ici par André Taïeb dans le rite constantinois, encore un disque de l'Institut européen des musiques juives. Et ce psaume fait partie des 15 chants des degrés. On pense qu'on chantait ces psaumes lorsqu'on montait au temple de Jérusalem, et où justement, dans le Saint des Saints, étaient enfermés, contenus, les fameuses tables de la loi, les 10 commandements dont vous venez de nous parler, Franklin Rossi. Et les psaumes sont souvent considérés comme des écrits que l'on peut lire à différents niveaux. J'ai lu récemment un livre déjà ancien de Arié Kaplan qui parle des psaumes comme un moyen d'accéder à une forme de méditation, dont son livre s'intitule La méditation et la Bible. Cette pensée est d'ailleurs reprise par le rabbin et philosophe Marc-Alain Wachnin, qui dit que la lecture des psaumes fonctionne comme un ensemble de mantras. Il utilise le terme mantra, qui est un terme plutôt attaché à la civilisation indienne, hindouiste, mais qui aide à la concentration et à l'élévation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que plutôt la lecture des psaumes ne fonctionne pas comme un ensemble des mantras, mais fonctionner comme un ensemble des mantras. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque dans la tradition juive où effectivement la lecture était un dispositif d'entrée dans un état modifié des consciences. La lecture avait un caractère hypnotique, un caractère extatique. L'objectif de la lecture, ce n'était pas simplement l'étude, l'acquisition des connaissances, mais surtout le passage à un état autre, à un état second, à un état de déconnexion par rapport au réel et d'entrer dans un monde supérieur. Et les psaumes fonctionnaient dans le monde juif comme d'autres textes fonctionnaient dans le monde chrétien, dans le monde hindouiste, dans le monde bouddhiste. Les mots sont ici les clés pour entrer, pour ouvrir les portes d'une perception supérieure et différente. Pourquoi j'ai dit que cette lecture des psaumes fonctionnait? Pourquoi je ne dis pas que cette lecture des psaumes fonctionne aujourd'hui comme un ensemble des mantras? Parce que, en vérité, nous ne faisons que réfléchir, qu'étudier, que contempler ce qui a été un dispositif de la mystique juive traditionnelle, qui aujourd'hui n'est pas utilisé véritablement. Nous sommes plus dans la recherche scientifique ou dans la recherche des connaissances ou encore dans une sorte de quête du sacré, mais nous ne sommes pas dedans. Nous observons ces phénomènes du dehors. Et la lecture des psaumes, très souvent, est pour nous aussi beaucoup plus un moyen d'étude ou un moyen de prière, mais je dirais un moyen de prière entre guillemets, ordinaire.
Mais il y a quelque chose qui me frappe si on assiste à l'office aujourd'hui, c'est le balancement. Ce balancement qu'on retrouve quand les hommes, enfin les femmes chantent les prières. Est-ce que ce balancement un peu incontrôlé, chacun se balançant à son rythme, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi cette forme de déconnexion dont vous parlez? Évidemment, on n'est pas du tout à l'état de transe comme chez les soufis, dans les synagogues, on ne verra pas ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de déconnexion?
Oui, c'est une forme de relaxation. C'est une forme de, non pas de déconnexion totale, mais ce sont des étincelles de déconnexion. Ce sont donc des moments dans lesquels nous cherchons à pouvoir nous concentrer sur le contenu du texte mystique que nous sommes en train de lire. Mais le rabbin Abraham Isaac Cohen Cook disait: pourquoi les synagogues ne sont pas des lieux fermés, des véritables capsules sans porte ni fenêtre? Pourquoi nous ne prions pas dans un lieu d'isolement, d'anonymat, de solitude, loin du monde? Pourquoi une synagogue, selon la loi juive, doit avoir 12 fenêtres? Alors, le Rav Cook dit, les 12 fenêtres, nous permettent de ne pas plonger dans une pure méditation, dans une pure prière, dans une lecture, pour ainsi dire, narcissique, solipsiste, mais d'écouter ce qui se passe dans la rue, d'écouter ce qui se passe ailleurs. C'est ce que veut dire que la prière juive s'exerce dans une tension entre le dehors et le dedans.
Vous voulez dire, en fait, et on en parlera plus tard, que le judaïsme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et souvent traditionnellement ne veut pas cette déconnexion. Il doit rester connecté avec la vraie vie, en fait.
Et ça, il doit être connecté avec la vraie vie. Et le Rav Kook disait donc que nous ne pouvons pas prier dans une sorte d'égocentrique mystique. Nous devons prier aussi en sachant que dehors, de l'autre côté de nos murs, il y a des hommes. Des hommes qui se réjouissent, des hommes qui souffrent, des hommes qui pleurent, et nous devons être aussi à leur écoute. Et le moment de prière ne doit pas être un moment de déconnexion par rapport à l'homme, n'est-ce pas? La relation verticale de l'homme à son créateur ne doit pas éclipser la relation horizontale de l'homme à son prochain.
Et pourtant, alors, dans la prière, on trouve des indications de cette forme de mysticisme, notamment dans le chant de la prière, puisque déjà à l'époque talmudique, certains mots faisaient l'objet d'un traitement mélismatique ou ornemental spécifique qui était lié à leur signification. Je pense notamment au Amen. Il y avait donc une loi orale du traité Berachot qui spécifiait qu'il ne faut pas abréger l'amen, celui qui abrège l'amen, ses jours seront abrégés, celui qui allonge l'amen, ses jours seront allongés. C'est quand même magnifique comme phrase. Et d'autres chants, d'autres prières, comme par exemple la Kedusha, la sanctification, qui est une prière très importante dans le culte et dans la liturgie juive, est également investie d'une forte dimension mystique. On dit dans le monde mystique que lorsque cette prière est chantée par les fidèles, elle est accompagnée dans le royaume supérieur par les anges. Et même le Zohar décrit plusieurs anges, plusieurs groupes d'anges qui prononcent le mot saint, puisqu'on répète plusieurs fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc c'est donc leur voix pleine et retentissante, des groupes d'anges qui entonnent chacun un saint, un Kadosh. Et cette Kedusha, qui commence par les mots Keter et Tenulecha Adoshem, est donc associée par les mystiques au chant de la rédemption messianique. Et je vous propose d'écouter donc cette prière, cette Kedusha, Keter, interprétée dans le rite bordelais, ici par Adolf Attia. Nous venons d'entendre la première partie du Keter, interprétée ici par Adolphe Attia, accompagnée au piano par Mac Taillard, donc un extrait du CD Musique de la Synagogue de Bordeaux. Franklin Roski, on vous écouterait des heures, malheureusement il faut nous falloir avancer parce que nous ne pouvons pas allonger le temps de façon démesurée dans le cadre de cette émission, mais une pensée qui me vient, est-ce que ce mysticisme juif n'est pas associé à des périodes troubles de l'histoire juive? Je pense notamment, il y a eu différentes écoles mystiques juives, mais je pense notamment aux martyrs des Juifs à l'époque des croisades, 12e et 13e siècle, à l'expulsion des Juifs d'Espagne qui a été vécue comme un cataclysme, ou encore au mouvement mystique sabbatéen au 17e ou racidique au milieu du 18e siècle. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité entre cette histoire de persécution et ces émergences de courants mystiques?
Tout à fait. Et le mysticisme juif apparaît quand le rationalisme juif a du mal à expliquer les traumatismes, les souffrances, les drames de la condition juive en exil. Et à l'époque des croisades, quand les érudits ne peuvent pas expliquer les malheurs qui frappent le peuple juif, à l'époque de l'expulsion des juifs d'Espagne, parce que ce n'est pas dans la lecture des grands philosophes juifs classiques qu'on peut trouver l'explication de la souffrance de cette expulsion, ou à l'époque chassidique, qui correspond à l'époque de Voltaire et de Rousseau, parce que la lecture des philosophes des Lumières n'explique pas la détresse des populations juives en Europe de l'Est. Alors on se tourne vers une autre explication, qui est l'explication mystique, ou comme le dirait Jacob Gordin, l'explication historiosophique, interprétée à la lumière de l'histoire, à travers une clé mystique qui nous fait comprendre que l'exil, la dispersion, les persécutions sont le passage obligé vers la rédemption.
Mmh. Tout à l'heure, vous nous avez parlé donc du buisson ardent, de cet épisode qui pour vous est fondateur. D'ailleurs, vous avez parlé aussi de la création du monde des 10 paroles, puis il y a les 10 commandements. Vous voyez le symbolisme sur le chiffre 10. Donc, ces 10 commandements, dans la tradition juive, il y a un ensemble de mélodies qu'on appelle Nigunim Sinai, qui signifie donc littéralement mélodie du Sinai, et qui serait également porteuse d'une forte intensité mystique. Alors, pourquoi Nigunim Sinai? Parce que la tradition populaire attribue ces mélodies à Moïse lui-même. Enfin, elles auraient été révélées sur le mont Sinaï à Moïse en même temps que les 10 commandements. Évidemment, c'est une tradition populaire. Des musicologues se sont penchés sur la question, sur ces mélodies, et les font dater pour certaines plus probablement de la période justement des croisades. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une de ces mélodies, et notamment une de ces mélodies qui est très connue, c'est la mélodie du Kol Nidré. Le Kol Nidré dans le rite ashkénaze a une particularité, c'est que sa mélodie, contrairement aux autres prières juives, est commune à l'ensemble des traditions ashkénazes, Europe de l'Est ou Europe de l'Ouest. Et donc, selon Hanor Avenari, le musicologue dont je parlais, ça veut dire que cette air est né très probablement avant que les Razanout, l'art cantorial d'Europe de l'Est et de l'Ouest, se séparent, et donc probablement antérieur au XVe siècle. Et ces mélodies du Mont Sinaï sont généralement, comme je l'ai dit, étirées pour souligner le poids secret des mots. Et je vous propose d'écouter donc un extrait de ce Kol Nidré chanté par Émile Katzmann.
Oh.
un extrait de cette magnifique prière du Kol Nidre, prière qui dure au moins 12 minutes, donc on ne pourra pas écouter dans son intégralité, chantée ici par Émile Katzma dans un enregistrement déjà ancien. On a entendu les grésillements du 33 tours, enregistrement tout à fait magnifique. Franklin Roski, le XVIe siècle marque une recrudescence importante du mysticisme juif. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Pourquoi?
Oui, c'est un siècle dans lequel il y a des massacres, des pogroms en Europe de l'Est. C'est un siècle dans lequel il y a des persécutions diverses. C'est aussi le siècle de la persécution. C'est le siècle de l'inquisition également pour les maranes qui ont gardé en secret le judaïsme. C'est un siècle des grandes détresses. Les kabbalistes de Safed, cette petite ville jonchée sur une colline de Galilée, ont trouvé une sorte de clé initiatique et mystique pour comprendre ces souffrances. Ce sont les douleurs préalables à l'enfantement du Messie. Et en conséquence, il fallait renouveler le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël à travers des cérémonies nouvelles. C'est donc la naissance aussi de l'Akba Omer, le 33e jour de l'Omer, qui est célébré donc comme une très grande festivité à Safed, avec des chants, avec de la musique, qui est précisément donc une fête de retrouvailles entre l'homme juif et la terre promise. C'est aussi la naissance de la nouvelle année des arbres, n'est-ce pas? La nouvelle année des arbres, Tuvishvat, qui est le moment où l'homme se réconcilie avec la nature de sa terre natale. Et c'est aussi l'origine du Kabbalat Shabbat, dont nous aurons peut-être l'opportunité d'en parler. Lentement, ce ressourcement de l'homme dans sa terre natale, oublié longtemps, va s'exprimer par la musique, par le chant et par la prière.
Alors justement, puisque vous nous parlez de Kabbalat Shabbat, Kabbalat Shabbat en hébreu qui veut dire l'accueil du Shabbat, c'est donc, se met en place un accueil dans la joie, dans la liesse, et comme cet accueil se situe avant l'entrée de Shabbat lui-même, on avait le droit de jouer de la musique et même des instruments de musique. D'ailleurs, à Prague, on trouve mention au XVIIe et XVIIIe siècle de larges cérémonies avec différents instruments de musique et même des orgues. Et donc, c'est cette fameuse école de Safed sous la direction de Israël Luria, donc on parle d'école lourianique, qui introduit cette cérémonie et qui va être illustrée par de nombreux compositeurs ou peitanim, enfin créateurs de poésie religieuse, dont par exemple le célèbre Salomon Alkabetz, qui écrit un hymne, l'Echa Dodi, qui va faire le tour des communautés juives dans le monde, puisque cet hymne compare l'accueil de ce Shabbat à la fiancée qui revient à la maison après une semaine d'absence, et on est tellement contente de la voir qu'on s'habille bien, qu'on prépare une bonne nourriture, et il y a la joie est là, et ça c'est très très important. Cette ère dont je parle, cette prière l'Echa Dodi, on n'a jamais compté, mais on lui connaît tellement d'airs différents. Certains musicologues ont dit qu'il en existe plus de 2000. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire 2000. Je dirais que presque tous les jours, il y a des nouveaux airs qui se créent. Donc, je vous ai fait une toute petite compilation de 4 l'Echa Dodi. Un dans le rite ashkénaze français, le deuxième dans le rite du Kontav vénétien, le troisième dans le rite marocain et le quatrième dans le rite des Juifs des montagnes d'Azerbaïdjan.
אחד עודי לקראת קלה, בני שבת מקבלה. לאחד עודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אמוני אחד, שמו אחד.
לחדדי לגרת קלה, פני שבת נגבלה. שומר וזכר בדברי חד, השמיענו אל המיוחד. אדוני חד ושמי חד, לשימול תפילית ולתהילה.
Les Radodi, dans quatre traditions différentes. On n'aura pas le temps d'écouter les 1996 autres airs ce soir. Mais tant pis, il nous faut avancer sur notre chemin de la mystique juive et de la musique juive et parler d'un autre mouvement très important qui naît au XVIIIe siècle, influencé justement par les théories laurianiques de l'école de Safed. Il s'agit du racidisme. Pourriez-vous, Franklin Roski, nous en parler? Sur quelle base repose ce mouvement fondé par donc Eliezer Baal Shem Tov?
Oui, l'idée fondamentale, ce qui nous intéresse, c'est Yivdou et Hashem Besimra, adorer et l'Éternel avec joie. C'est l'idée que malgré les épreuves du monde juif, notre religiosité ne peut pas être rigoureuse, rigoriste, austère, triste, sévère. Chaque commandement de la Torah doit être observé dans la joie de l'accomplissement. Et cette idée, Yivdou et Hashem Besimra, adorer l'Éternel dans la joie, va révolutionner profondément le monde juif. Parce que cela veut dire que la vie quotidienne, elle doit être donc un lieu d'épanouissement et d'expression. D'épanouissement et d'expression qui n'attend pas l'ère messianique, qui est pré-messianique. Aujourd'hui, ici, maintenant, nous devons aussi vivre l'émotion et l'intensité de la foi.
Et cette intensité, en fait, elle s'exprime par la musique, par le chant notamment, par ces fameux nigunim, ces mélodies, ces airs, qui deviennent un des piliers essentiels de ce mysticisme racidique, mysticisme avant tout populaire, puisque le racidisme avait touché, on estime, la moitié de la population juive d'Europe de l'Est au XIXe siècle. Et donc le nigun, c'est un air que l'on chante, mais que l'on danse en même temps. Et le corps y participe totalement, on s'accompagne du balancement du corps, du torse et des bras, d'éventuelles frappes de mains, et ça peut induire une véritable transe. On a tous en tête l'image de Rabbi Jacob, le film de Gérard Houry, où Louis de Funès donc danse comme ça. Et Rabbi Nachman de Breslav prêtait même à la danse des vertus magiques, puisqu'il disait en 1803 « J'ai beaucoup dansé cette année, parce que c'est cette année que fut promulgué le décret d'Ipoutine, qui est un décret d'intégration des Juifs russes, et contre lequel il dansa beaucoup pour lutter. » Et je vous propose d'écouter un de ces nigounes. On a malheureusement très peu de temps. Il s'agit donc d'un nigoun de danse de la cour des Boyan Hasidim. Alors cette danse donc se continue ainsi à l'infini. On entend bien les frappes de main des racidim qui arrivent à une véritable transe. Les écoles racidiques vivent encore aujourd'hui. On connaît les Lubavitch, on connaît bien d'autres mouvements. Franck Laroski, j'ai bien envie de vous demander, mais alors aujourd'hui, qu'en est-il de ce mysticisme juif? Est-ce qu'il y a de nouvelles écoles? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a des nouvelles écoles qui étudient, qui explore le mysticisme juif. Il n'y a pas de nouvelles écoles de mysticisme juif. Ce qui veut dire que nous sommes dans une attitude de recherche, de curiosité, qui n'est pas simplement intellectuelle, qui est aussi une curiosité existentielle. Nous voulons savoir ce qui a poussé les hommes et les femmes du passé à chercher l'absolu à travers la musique, à travers la transe, à travers l'extase. Mais vraisemblablement, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Nous ne faisons que l'observer. Je ne dirais pas qu'il y a aujourd'hui des écoles de mysticisme juif. Je dirais simplement qu'il y a des écoles d'études du mysticisme juif, des écoles qui cherchent à comprendre la nature de ces mysticismes. Mais c'est notre siècle.
Mais il y a encore des pratiques populaires aujourd'hui, notamment, alors on n'a pas parlé, on n'avait pas le temps, mais de ces fameuses cérémonies qui se passent la nuit, des prières nocturnes, notamment des bakashotes, les supplications que l'on trouve au Maroc, en Syrie, et pendant lesquelles quand même, pendant toute la période qui sépare Soukhot de Pâques, ça fait plusieurs mois, les hommes et les femmes et les enfants se rendent à la synagogue le vendredi soir à minuit pour chanter jusqu'au lever du matin. Donc c'est quand même, et il y a une forme de prière collective qui permet, alors je ne dis pas d'atteindre la transe, certainement pas, mais qui se rattache peut-être aux cérémonies mystiques liées à la nuit, à une approche justement collective. Mais c'est un mysticisme peut-être plus populaire, de la même façon qu'on voit aussi aujourd'hui de nombreux pèlerinages, vous le savez, on a juste le temps de les évoquer, on pense notamment bien sûr à Djerba avec son fameux pèlerinage et à Tlemcen et bien d'autres encore. Alors pour finir cette émission, je vous propose d'écouter un très court chant dédié à Bar Yorai, un des grands mystiques juifs.
نشوفك بالنية وفي قلبي ما عندي حيلة نصرف بالالف والمية لحساب ولكيلة مقامك عالي يا حلالي اللي ما في بالي هزهالي.
Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission se termine. Je tiens encore une fois à remercier infiniment Franck Larouski pour nous avoir fait partager ce soir sa connaissance du mysticisme juif. On vous aura écouté des heures, mais nous n'avons pas le temps. Je vous recommande donc de retrouver à travers ses livres, à travers aussi le site de l'Institut Elie Wiesel que vous trouvez facilement sur Internet, pour profiter des nombreux enseignements mis en place par cette institution. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, www.cfmj.fr, ainsi que sur judaïkfm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild.